Hello, je vous accueille sur ce nouveau module. Après avoir vu l'importance de ce média, nous allons voir aussi cette importance dans le cours de l'histoire. Comment les chrétiens l'ont aussi utilisé. C'est un module de connaissances générales. Vous n'êtes pas obligé de le suivre pour réussir le lancement de votre radio. Et si vous voulez le suivre, vous pouvez même le suivre en vitesse rapide. Vous voyez sur YouTube la petite roue crantée des paramètres. Vous mettez en vitesse rapide et vous me verrez rapidement vous expliquer l'histoire de la radio. La place de la radio hier, aujourd'hui et demain. Je vous cite un verset là qui est « Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes ». C'est vraiment dans cette optique-là que je veux vous expliquer un petit peu cette histoire de la radio. C'est en s'appuyant sur l'enseignement et l'expérience de nos pères, de ceux qui nous précédaient, en travaillant avec nos pères, c'est-à-dire les personnes qui sont nos égaux, et en regardant à Jésus-Christ notre Maître, nous pourrons communiquer avec force l'amour, la joie, l'espérance, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut. Cette histoire de la radio, c'est l'histoire d'une invention technique. Je vous expliquerai la diffusion des premiers programmes et la prise en main par les chrétiens. C'est un instrument de guerre. Et après la guerre, les premiers programmes chrétiens en Europe, avec la libération des ondes dans la francophonie. 1981-2020, l'évolution de la radio FM, de la libération à la professionnalisation, et la naissance des radios chrétiennes. Et un petit zoom sur la radio de demain. Donc c'est une invention technique. La photo que vous voyez ici, c'est une expérience radio en 1918 à l'université de New York. L'invention de la radio est une œuvre collective qui part de la découverte des ondes magnétiques et de l'invention du télégraphe. Donc elle aboutit au premier matériel utilisable pour communiquer sans fil. Un des pères de la radio, c'est Samuel Morse, qui brevette le télégraphe électrique, 1840. En 1886, Rudolf Hess met en évidence les ondes radio. Elles sont appelées ondes hertziennes. Donc, vous connaissez d'autres noms comme Édouard Branly, Marchionni, Ducretet, Telsa. Le 19e siècle permet aux communications à distance suite à de grandes explorations. Deux inventions, le téléphone et la radio, aussi appelée TSF, télégraphie sans fil, s'appuient sur des techniques de communication à distance. Les inventeurs avaient pour objectif de diffuser des pièces de théâtre pour le téléphone, une communication de masse, et de faire des communications à distance avec la radio, des communications point par point. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone, c'est une communication point par point, alors que la radio est une communication de masse. Nous partons souvent avec des idées pour de nouveaux projets et pour les événements, mais les usages peuvent changer et évoluer. Gardons à l'esprit que nous ne connaissons pas l'avenir, et quand nous abordons un nouveau service, les personnes peuvent se l'approprier ou l'utiliser d'une manière différente. L'invention de la radio est une œuvre collective. Donc elle a vraiment évolué après la Première Guerre mondiale. Si la première émission en 1913 a lieu en Belgique, elle a vite été stoppée par le début de la guerre. En décembre 1921, Radio Tour Eiffel diffuse son premier concert avec un émetteur de 900 watts. La radio est une des raisons pourquoi la Tour Eiffel n'a pas été démontée après l'exposition universelle. Cette construction avait pour objectif d'être temporaire. Actuellement, la Tour Eiffel est toujours utilisée dans la diffusion de la radio et de la télévision. Les radios servent de support à la propagande, comme la radio du Reich nazi, qui s'active dès 1933. Un grand utilisateur de la radio, Goebbels, un des plus grands utilisateurs de la radio, c'est Goebbels, ministre de la propagande allemande. Il produit en masse des récepteurs. Il produit en masse des postes de radio permettant de recevoir des émissions à courte portée afin de ne capter que les radios allemandes et non pas les radios hors d'Allemagne. Il organise des services d'information et crée l'ancêtre des agences de presse, reprenant les informations partout en Allemagne et les communiquant dans la radio. Cela lui permet de court-circuiter les journaux, pas toujours acquis au nouveau régime nazi. Il s'aperçut que si on diffusait plus de 30% de propagande gouvernementale, les auditeurs et le grand public n'écoutaient plus. Il fut aussi bluffé par la radio soviétique qui diffusait comme le téléphone par fil. Donc vous avez la photo ici de personnes, de Russes qui écoutent la radio. Et la radio en Russie était reçue par fil, par câble. Et l'autre photo, c'est la publicité pour un poste radio allemand. Dès le début, les chrétiens ont vu l'opportunité de partager la bonne nouvelle autour d'eux, au travers de ce média. La première station religieuse à avoir vu le jour, c'est WM, détenue et exploitée par l'Église de l'Alliance à Washington. Elle a commencé le 22 décembre 2021. Cette station a duré un peu plus de 3 ans. Un peu plus tard, une autre station a vu le jour à Los Angeles. Une évangéliste savait en 1922 qu'elle voulait diffuser la parole de Dieu et amener les gens à son église grâce à la radio. Elle a gagné en popularité. Aimée Semple McPherson a été même la fondatrice d'une fédération d'églises, la fédération d'églises Foursquare. De nombreux évangélistes annonçaient la parole de Dieu au travers de la radio. L'inconvénient de ce mouvement populaire naissant était que de nombreux prédicateurs radiophoniques, présidents de collèges chrétiens, traducteurs, avaient tendance à parler et à agir de façon indépendante, avec peu de considération pour la vue de l'ensemble. Au lieu d'agir comme des frères, ils ont agi comme des rivaux, affaiblissant les possibilités d'un témoignage chrétien significatif. Face à ces inquiétudes, un mouvement est né, National Religious Broadcaster, en 1944, qui regroupe les radiodiffuseurs chrétiens afin que le message ne soit pas affaibli par des conflits. Hors des États-Unis, des radios internationales voient le jour. L'une des premières est Radio Vatican, qui a été fondée en 1931. Puis HCJB à Quito, qui commence à émettre à Noël en 1931. Cette radio, fondée par les évangéliques américains, débute avec un émetteur de 200 watts. Elle est arrivée en 1982 avec 500 kilowatts en multipliant sa force. Actuellement, la station ne fonctionne qu'avec 10 kilowatts et uniquement en espagnol. Elle a laissé un grand héritage et les radios finissent par rentrer dans la guerre. Les radios servent de support de propagande, comme la BBC qui est écoutée pendant le couvre-feu et transmet sur l'onde des informations codées pour vers la résistance. Deux slogans émis par la BBC, Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand, ou ici Londres, les Français parlent aux Français.
Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand, Radio Paris Mans, Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand.
Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération.
Ici Londres. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suite.
Et aussi le fameux appel du 18 juin du général de Gaulle, qui font entrer la radiodiffusion dans l'histoire. Mais, alors que la France était en partie occupée dans la zone libre, la radio reste une source de divertissement. Avec Radio Andorre, qui diffusait, outre des journaux d'information, mais plutôt du divertissement.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
En pendant la guerre, la radio était une source de divertissement dans les zones libres de la part de la plupart des radios, hormis les plus subventionnées qui, évidemment, diffusaient de la propagande du gouvernement ou de l'occupant. Avant la guerre, les radios étaient tenues par des journaux avec des intérêts politiques puissants. Puis, après la guerre, comme la radio était un véritable arme de guerre dans les mains des États, à la sortie de la guerre, les États européens ont gardé la radio dans le cercle du pouvoir et de l'État. Aux États-Unis, les radios sont restées privées. Bon nombre de stations de diffusion ont été des postes chrétiens. Donc après la guerre, alors que la diffusion radiophonique est restée libre aux USA, en France et dans les pays européens, les radios privées sont nationalisées. La diffusion de la radio reste un service public d'État jusqu'en 1982, après l'élection de François Mitterrand. En Allemagne, la radio est autorisée par les Alliés, mais par région, pas de radio nationale. Mais certaines radios périphériques échappent aux tutelles du service public français. Donc, sont des radios privées. Elles s'installent hors des frontières. RTL, qui était avant Radio Luxembourg, Europe 1, qui s'est installé en Sarre, en Allemagne, depuis 1905, Sud Radio et Radio Andorre, dans le sud-ouest de la France, et RMC à Monaco. Et grâce à ces radios, des programmes chrétiens ont pu être diffusés. Radio Réveil prépare des émissions radio depuis 1949. La Voix de l'Évangile débute sur Radio Luxembourg et Europe 1 en 1958. L'Heure luthérienne diffuse en plusieurs langues et en français sur Radio Luxembourg. TWR, Transworld Radio, une société américaine, aide Radio Évangile. TWR, Radio Évangile, a un accord avec MMC et aide à la diffusion d'autres programmes sur cette radio. Christ vous appelle, CVA, est le premier service radio des ADD, évangélise sur RTL et RMC. Après la diffusion de Radio Pirate, grâce à la nouvelle technique de diffusion, la FM, qui permet une diffusion plus aisée et plus courte. Mais l'arrivée du président socialiste Mitterrand permet l'autorisation d'émettre de radios associatives. D'abord, sans publicité. Des radios chrétiennes se lancent, Radio Gologos, Radio Fraternité. La commission Jalabert fait les premiers choix des radios autorisées. C'est à ce moment-là que Radio Certitude de Grenoble, où j'étais, a commencé à émettre. Puis la haute autorité s'est mise en place. Le changement administratif a continué avec la CNCL, Commission nationale des communications et des libertés. Et maintenant, nous sommes avec le CSA qui gère les nouvelles radios. Mais les chrétiens ne sont pas en reste. Donc début 1990, il y avait autant de radios protestantes évangéliques que de radios catholiques. Donc nous voyons ici Radio Logos, la première station locale chrétienne. D'autres ont patienté et ont débuté en 82-83. Donc il y a une montée évangélique des radios. Radio Certitude, et là je suis en formation à Radio Réveil, puis Phare FM, Radio Phare, qui est l'ancêtre de Phare FM. Donc, comme je le disais, fin 1990, il existait autant de radios évangéliques que de radios catholiques. Et elles s'unissent dans la Fédération des radios et télévisions chrétiennes, qui a été créée en 1985. Et voici, nous arrivons aux naissances du réseau Phare FM. Radio Phare, qui a été une des dernières radios évangéliques à être autorisée, le pasteur Claude Greiner propose un programme musical avec l'aide d'une personne venant d'une radio commerciale de Mulhouse et d'un groupe anglo-saxon, UCB. Il propose le programme à d'autres radios, et c'est la naissance du réseau. Actuellement, nous vivons l'extension de la diffusion au travers des web radios, ainsi qu'au travers de la radio numérique DAB. Ça permet la continuation de l'œuvre radiophonique. Maintenant, de nouvelles diffusions arrivent. Non seulement il y a l'FM, le DAB, le streaming internet, le podcast, les enceintes smartphones et les enceintes connectées. Et nous avons aussi de nouveaux usages. L'usage de la mobilité, on passe des autoradios aux applications smartphones. Et on écoute aussi la radio en la questionnant. On passe par la recherche Google en posant des questions sur les enceintes connectées qui nous renvoient sur une radio qui répond à la question que nous avons posée.